Je suis Pascal Grégory, voilà, et je suis acteur. Mon métier, c'est acteur. Ça marche?
Que dire de Jon Foss? Jon Foss est norvégien, il est écrivain et dramaturge, et il est prix Nobel de littérature. Pourquoi? Pour le savoir, il faut le lire et l'écouter. Dans cette nouvelle saison, de grands noms du théâtre témoignent de leur rencontre avec son œuvre et nous la font entendre. C'est-à-dire, le podcast de l'Arche.
C'est un grand écrivain, hein, Jon Foss. Grand écrivain. Que j'ai rencontré quand j'ai joué au Théâtre de la Ville sous la direction de Patrice Chéreau, Rêve d'automne. Je ne peux pas dire que je l'ai connu, mais je l'ai rencontré. C'est un homme assez secret. Patrice Chéreau, à cette époque-là, venait de nous dire, premier jour de répétition au Théâtre de la Ville, qu'il avait un cancer, un début de cancer, et donc il faisait des soins, une chimio et tout ça. Donc, ça nous a quand même assez estomaqué, d'autant plus que moi, je le connaissais plus que bien et qu'il m'en avait pas parlé. Et donc, on est parti sur cette base, alors que la pièce ne parle que de la mort, en plus. Il y avait ça derrière nous. Cimetière, la mort, moi je meurs dans la pièce, les personnages masculins meurent. Et Patrice est mort un an après. Donc, tout ça nous traversait comme des fantômes. Alors, vous voulez que je lise? Bon. Je vais commencer par un texte un peu banal où il raconte dans quel environnement il a grandi. J'ai grandi dans un petit village près des fjords, à côté de la mer, à Angesund. Et le son des vagues, les mouvements des vagues, tout ça est en moi depuis l'enfance, depuis ma naissance. C'est devenu une part de moi. En prenant de l'âge, j'ai souhaité retourner voir la mer. La mer me manquait. C'était très important pour moi. Je me souviens de mon père et moi sur la mer. Ça fait partie de mes souvenirs les plus chers. Il est mort maintenant. Et puis, je suis parti habiter en ville. Plus âgé, j'ai pu m'acheter un appartement avec vue sur la mer. Et puis, j'ai acheté un bateau pour être sur la mer. Autour de la quarantaine, grâce à mes pièces, normalement, on gagne pas tant d'argent en écrivant, mais grâce à mes pièces qui ont commencé à marcher et ont été joués un peu partout, j'ai gagné de l'argent et j'ai pu acheter une maison, un bateau. C'est étrange. Il pourrait écrire, Jon Foss, une pièce qui pourrait s'appeler « Rien ». Il n'y a rien. Mais ce qui est extraordinaire dans ce rien, c'est qu'il a construit quelque chose dans ce rien. Il a construit la vie des gens dans ce rien. On passe des journées parfois entières à dire des choses qui ne sont rien. On parle beaucoup dans une journée, tout le monde. On rencontre des gens et on ne dit pas grand-chose d'intéressant. Et en même temps, c'est bien, pourquoi pas? C'est pas une question de bêtise, pas du tout. Mais ça, c'est voilà, ça c'est le travail de Jon Foss. Et là, il a construit autour de ce rien quelque chose où tout le monde peut se retrouver. Un autre texte très beau qui s'appelle « Quand un ange passe sur la scène ». Quand le théâtre est vraiment beau, pas pendant des heures, car rien ne peut être vraiment beau sur une période longue, mais lors de ces brefs instants lumineux, fulgurants, quand quelque chose dans une représentation de manière inexplicable se transforme en un sentiment intense plein d'une perception que vous comprenez et qu'en même temps votre être tout entier ne parvient pas à expliquer facilement, c'est-à-dire quand le théâtre est à son apogée, on dit en Hongrie qu'un ange passe sur la scène. Cette expression n'existe pas, autant que je sache, aussi bien en norvégien que dans les autres langues scandinaves. Alors qu'en Hongrie, on l'utilise communément dans le vocabulaire théâtral, à la fois dans les paroles quotidiennes et les journaux. Et quelle meilleure description du théâtre à son apogée que de dire « un ange passe par la scène » à ces moments où cela vraiment se produit. On m'a expliqué que cette expression n'implique pas que l'ange va sur la scène, il passe par la scène. L'ange est soudainement là, avec sa présence invisible, et passe de manière aussi invisible et soudaine par la scène du texte et des acteurs pour disparaître encore une fois invisible. Tout va finir dans un moment. Une présence invisible est apparue et a disparu. Pourtant, elle a laissé sa trace sur ceux qui ont pu faire l'expérience de ce qui est arrivé de manière inexplicable. Il va sans dire que de tels moments privilégiés ne peuvent pas être commandés, ne peuvent pas être mis en scène. Ils viennent s'ils viennent et ne viennent pas si quelque chose s'y oppose. Ce que chacun qui travaille sur une production théâtrale peut tout de même faire, c'est de préparer du mieux qu'il le peut l'occasion pour l'ange de passer par la scène, si du moins l'ange le veut bien. Si j'ai un quelconque objectif en écrivant pour le théâtre, ça doit être d'écrire des textes qui possèdent assez de force pour que l'ange puisse passer par la scène. De quel ange est-ce que je parle ? Peut-on se demander ? Je ne voudrais pas insister sur la possibilité que ce soit un ange religieux, et je ne voudrais pas non plus insister sur la possibilité que ce ne soit pas un ange religieux. Mais si j'essaie de dire quelque chose sur ce qui se produit durant ces instants magiques, ces moments privilégiés où quelque chose d'inexplicable arrive dans la rencontre entre la scène et la salle, alors il m'apparaît que ce sont des mots simples, dans des situations simples, humaines, souvent modestes. Quelque chose de très concret devient si simple ou si réel que cela abolit sa propre réalité et devient une sorte de perception profonde et nouvelle qui n'est pas intellectuelle mais émotionnelle. Une perception qui, en fait, tout comme les rituels du théâtre, n'est pas individuelle mais collective. Une sorte de fragile communauté humaine se met imperceptiblement à exister. Et puis d'ailleurs, le rire n'est jamais très loin. Quand l'ange passe par la scène, l'esthétique et l'éthique deviennent par la suite une seule et même chose. Parce que quand l'ange passe par la scène, vous comprenez assez soudainement, par-delà tout concept, toute théorie, tellement plus que vous ne parviendrez jamais à l'exprimer. Et vous comprenez cela ensemble. Et alors, vous vous rapprochez, je crois, des perceptions mystiques et indicibles que chaque art protège en son âme souterraine avec un soin meurtrier. Il faut que l'ange arrive. Je crois qu'avec tout ce que j'ai fait avec Patrick Chéreau ou Arthur Dosiciel avec qui j'ai travaillé, Luc Bondy, je pense que l'ange est passé par la scène. À chaque fois. Le cinéma, c'est très différent, c'est autre chose. Le cinéma, c'est un art de paresseux. Je vais vous lire un texte qui s'appelle « Vivre dans le secret ». Le plus important n'est pas de se souvenir, mais d'oublier. Car en oubliant, on se souvient aussi mais d'autres choses, oui, ça va sans dire. Et toujours c'est autre chose que l'on préfère. Oui, oui, car, et peut-être est-il aussi, oui, important de ne pas voir que de voir. Et il va sans dire, oui, oui, qu'il est aussi important de ne pas être vu que d'être vu. Aussi important de ne pas savoir que de savoir. Car l'un est quand même à sa manière, aussi vrai que l'autre. Et moi, oui, je veux être vu, bien sûr, mais oui, je veux aussi ne pas être vu. Mais ça va de soi. Mais oui, oui, eux, ils disent qu'ils veulent être vus, ou ils font comme si, oui. Oui, que les jeunes filles... Oui, 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 c'est peut-être comme ça, mais ce n'est pas vrai pour autant, non. Pas pour moi en tout cas, vu. Oui, 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 je veux être vu, mais compris. Est-ce que je veux être compris ? Ben, pas du tout. Ce qui est compris n'existe plus, sauf en tant que chose comprise. Voilà ce que je pense. Car il s'agit de vivre dans le secret. Eux, ça leur échappe. Ils croient que ce qui est dit et annoncé et montré se transforme en un bien pour eux, pour les autres. C'est comme ça. Eux. Mais qui c'est eux? De qui je parle? Eux. Qu'est-ce qu'ils sont bêtes? Car ce qu'il faut, c'est vivre dans le secret. Qu'est-ce qu'ils sont bêtes tout de même? Et qu'est-ce que je suis bête aussi? Mais oui, oui, sans comprendre, je fais de mon mieux pour vivre dans le secret. Mais suis-je capable d'oubli? N'ai-je pas le souvenir de tout moi? Car l'âme, on ne la voit jamais. Elle ne se laisse pas voir. C'est comme ça. L'âme, c'est comme ça. Qu'on laisse alors les hommes vivre leur vie en se cachant, qu'on les laisse vivre dans le secret. Qu'on me laisse vivre dans le secret. Oui. Voilà. Il est pas mal ce texte aussi, non? Encore une fois, comme je disais tout à l'heure, c'est des mots très banals. Et à la fois, c'est toujours très spectaculaire. Dans l'absence de mots, je dirais. Vous voyez ce que je veux dire? L'absence de phrases. Et j'aime ça. Et ça, c'est ce que je vais lire, c'est sur l'écriture, son écriture. D'après Chien et Ange, qu'il a écrit en 1992. Qui écrit? Est-ce moi? Ou est-ce quelque chose qui écrit en moi et écrit mes écrits à travers moi? Peut-être est-ce moi qui écrit? Chaque bout d'écrit a son propre moi. Et sans ce moi, l'écriture perd son mouvement et sa direction. Ce moi si différent, qui est pourtant si perceptible, ce moi différent que les écrits créent et qui crée l'écriture et qui est quelque chose, et peut-être c'est ce quelque chose que l'écriture décrit. C'est inouï, non?
Pascal Grégory lisait un extrait de « Écrire, c'est écouter », entretien avec Gabriel Dufay. L'écrivain et prix Nobel de littérature Yon Foss est édité et représenté par L'Arche depuis 1999. C'est-à-dire, le podcast de L'Arche. Conception, Annelise Heimburger et Claire Stavot. Musique, Jean-François Riffaut. Réalisation, Martin Kenéen. Ce podcast et les œuvres de Yon Foss sont à retrouver sur arche-éditeur.com.